Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je sais que vous avez commencé à travailler à distance et que vous vous adaptez extrêmement bien aux exercices qui vous sont proposés sur le site travaudirigés.com ou encore sur l'ENT de l'université. Donc je voudrais d'abord commencer par vous féliciter pour votre sérieux et les premiers retours que j'ai sont absolument excellent et encourageant. Je ne souhaite pas pour autant que cette situation s'éternise, vous le comprendrez aisément, mais en toute hypothèse, je suis heureux de savoir que vous jouez le jeu extrêmement sérieusement. Nous voici donc dans une section 2 de ce chapitre sur la responsabilité du fait d'autrui. Cette section 2 s'intitule La responsabilité générale du fait d'autrui sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er. Nous avons envisagé des hypothèses particulières de responsabilité du fait d'autrui qui ont été consacrées dans le Code civil initialement à l'article 1384 dans ses alinéas 4, 5 et suivants, et puis qui est devenu l'article 1242. Et nous voici maintenant dans une hypothèse de consécration d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui, c'est-à-dire un principe qui s'extrait des cas particuliers, des cas spéciaux consacré dans le Code civil. Paragraphe 1, la reconnaissance d'une responsabilité générale du fait d'autrui sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er. La reconnaissance d'une responsabilité générale du fait d'autrui sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er. Je vais d'abord envisager la discussion doctrinale qui a eu lieu sur cette question-là avant de traiter de la consécration de cette responsabilité générale du fait d'autrui. La discussion doctrinale, elle a eu lieu très vite, puisque à la suite de l'arrêt Gendeur, vous vous souvenez du deuxième arrêt Gendeur de 1930, l'article 1384, alinéa 1er, a été doté d'une normativité s'agissant de la responsabilité générale du fait des choses. On a cessé de considérer que l'alinéa 1er de l'article 1384 était une simple phrase de transition entre les articles qui précédaient et les dispositions qui suivaient. Et on s'est demandé si, à partir du moment où on reconnaissait un principe général de responsabilité du fait des choses dans cet alinéa 1er, on s'est demandé s'il n'était pas possible aussi d'y trouver une consécration d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. En effet, la phrase elle-même, cette petite transition en quoi constitue l'alinéa premier, dispose qu'on est responsable non seulement de son fait personnel, les alinéas qui précèdent, mais encore des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Des choses que l'on a sous sa garde, on en a tiré un principe général de responsabilité du fait des choses et on s'est demandé. Ne peut-on pas également, ou ne faut-il pas également, admettre la consécration d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui à partir de cette petite locution, à partir de ce petit bout de phrase, les personnes dont on doit répondre? Il y a eu un certain nombre d'auteurs qui ont été favorables à la consécration symétrique, en quelque sorte, de la responsabilité du fait des choses, d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. C'était le cas du procureur général Mater, qui a envisagé l'hypothèse dans ses conclusions sur l'arrêt Gendeur. C'était le cas également de René Savatier, un auteur qui a traversé le XXe siècle. C'était le cas encore de Henri de Mogue. Ils ont tous trois proposé de lire dans l'article 1384, alinéa 1er, un principe général de responsabilité du fait d'autrui sur le modèle de ce qui avait pu être consacré en matière de responsabilité du fait des choses, et l'on comprend le raisonnement symétrique qui a pu être mené. À partir du moment où on a accepté de faire d'un texte d'annonce la source d'un principe général de responsabilité du fait des choses, il faudrait faire de même avec le fait d'autrui, puisque l'alinéa premier a la même fonction d'annonce pour les cas particuliers de responsabilité du fait d'autrui. Pour autant, la majeure partie de la doctrine a été hostile à cette transposition. C'était le cas de Henri Mazeaud, Henri Mazot a fait valoir un désaccord en affirmant plusieurs arguments contre cette consécration d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Premier argument, la formule même de l'article 1384 alinéa 1er ne s'y prêterait pas. Il a dit, mais les personnes dont on doit répondre, c'est une formule qui est beaucoup trop floue, il n'y a pas de catégorie précise, alors que pour les choses que l'on a sous sa garde, il suffit de définir la garde de la chose. Pour les personnes dont on doit répondre, eh bien, on reste sans réponse quant aux personnes qui seraient visées par cette formule. Et puis a-t-on dit, deuxième argument, la formule de l'article 1384 alinéa 1er serait tautologique. Tautologique, T-A-U, T-O, L-O-G-I-Q-E, tautologique. Pourquoi tautologique ? Parce que dire qu'on est responsable des personnes dont on doit répondre, ça ne veut rien dire ou ça veut trop dire, c'est une évidence. Précisément, toute la question est de savoir, mais quelles sont les personnes dont on doit répondre ? Donc quand on affirme on est responsable des personnes dont on doit répondre, a dit Henri Mazot, ben, finalement, on tourne en rond, on tourne en rond, on ne peut pas s'en sortir pour déterminer quelles sont ces personnes. Et puis surtout, argument beaucoup plus fort, parce que finalement, pour être clair, les arguments purement formels de Mazot n'avaient pas beaucoup d'intérêt, puisque précisément, on essaye de se servir d'un bout de phrase qui n'a pas été fait pour consacrer un principe général. Autant dire qu'on ne va pas reprocher à ce bout de phrase de n'être pas capable de consacrer un principe général, puisque ça n'est pas son objet. Et donc, les arguments purement formels sur l'ambiguïté de la formule, son caractère tautologique, n'avaient pas vocation à emporter l'adhésion. En revanche, un troisième argument tenait aux nécessités sociales. Et on a dit, mais si l'on a consacré un principe général de responsabilité du fait des choses, c'est précisément parce que le besoin s'en était fait sentir au lendemain ou au moment de la révolution industrielle. Vous vous souvenez, essor du machinisme, multiplication des accidents anonymes. On a dit qu'il y a un besoin de responsabilité générale du fait des choses. Or, dit-on, dans les années 30, il n'y a pas véritablement de besoin de responsabilité générale du fait d'autrui. Il n'y a pas de nécessité sociale qui justifierait une telle consécration. Mais cet argument va précisément s'étioler, diminuer et disparaître au cours du XXe siècle, précisément en raison de l'évolution des structures et des méthodes de rééducation. Au fond, les nécessités sociales qui faisaient défaut probablement jusque dans les années 30 sont progressivement apparues au cours du XXe siècle parce que les méthodes d'éducation, les méthodes de traitement retenues pour les enfants, pour les délinquants, pour les handicapés, ont conduit à favoriser des régimes de liberté surveillée ou de semi-liberté sous l'autorité de centres éducatifs ou rééducatifs et qui conduisaient à favoriser la commission de dommages. Autrement dit, on s'est trouvé à partir des années 50 principalement en présence de méthodes d'éducation qui conduisaient à ce que des centres aient sous leur autorité, j'ai presque envie de dire sous leur garde, des personnes, des mineurs, des délinquants, des handicapés qui peuvent être à l'origine de dommages. Et on s'est dit, probablement, voici une raison de consacrer une responsabilité du fait d'autrui à l'encontre de ces centres éducatifs ou rééducatifs qui ont sous leur charge la responsabilité de personnes non seulement le plus souvent insolvables, ces enfants, ces délinquants, ces personnes handicapées, mais aussi des personnes qui sont souvent assez dangereuses ou inconscientes, de sorte qu'elles peuvent être à l'origine d'un certain nombre de dommages pour lesquels il faudra bien trouver un responsable si l'on souhaite indemniser les victimes. Je pars des années 50, mais en réalité, il va falloir attendre un certain temps, puisque la Cour de cassation ne s'est décidée à consacrer un principe général de responsabilité du fait d'autrui qu'à partir d'un arrêt Blick, B-L-I-E-C-K, B-L-I-E-C-K, du 29 mars 1991, c'est un arrêt d'assemblée plénière qui a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel qui avait considéré que les méthodes libérales de rééducation dans l'espèce permettaient d'appliquer les dispositions de l'article 1384 alinéa 1er et par conséquent l'assemblée plénière, pour le dire de manière plus simple et plus directe, a admis la référence à l'article 1384 alinéa 1er pour condamner le centre de rééducation pour le fait fautif et dommageable commis par l'une des personnes dont elle avait la charge. C'est évidemment un arrêt essentiel. Un arrêt essentiel qui me conduit au grand B, la consécration d'une responsabilité générale du fait d'autrui fondée sur l'article 1384 alinéa 1er devenu 1242 alinéa 1er. La consécration d'une responsabilité générale du fait d'autrui. Partons de cet arrêt Blick parce que finalement il dit beaucoup de choses et en même temps il soulève par ses incertitudes, par ses silences, un nombre de questions importantes. Cet arrêt Blick du 29 mars 1991 concerne une personne qui est handicapée mentale, qui se trouve dans un centre de rééducation semi-ouvert. Semi-ouvert, ça veut dire qu'elle conserve une liberté de circulation et en l'occurrence dans la journée. Et cette personne va mettre le feu à une forêt, une grosse bêtise, vous le voyez immédiatement. Elle va mettre le feu à une forêt et la question va être de savoir si c'est le centre qui peut être responsable pour la personne handicapée ayant causé ce dommage de grande ampleur. Ce centre de rééducation, il est un centre d'aide par le travail géré par une association. Et cette association, elle a choisi un mode de rééducation de la personne handicapée mentale, un mode de rééducation qui est particulier parce qu'elle laisse la personne en milieu ouvert ou semi-ouvert avec une très grande liberté de circulation dans la journée. C'est une méthode de rééducation qui est considérée comme bénéfique pour la personne handicapée mentale puisqu'elle lui conserve une part d'autonomie importante. Mais je n'ai pas besoin de préciser, vous le comprenez immédiatement, que c'est aussi un facteur de risque de dommage à partir du moment où la personne se trouve en milieu semi-ouvert avec cette grande liberté de circulation dans la journée. La Cour de cassation va donc admettre la responsabilité de cette association, de ce centre de rééducation, avec une formulation de sa décision qui n'est pas dépourvue d'ambiguïté, je la cite. L'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de cet handicapé, de sorte qu'elle devait répondre, et était tenu de réparer les dommages qu'il avait causés, et donc en l'espèce, l'incendie de la forêt. Cet arrêt ne répond pas à toutes les questions que soulève la consécration d'un principe de responsabilité du fait d'autrui sur le fondement, à l'époque, de l'article 1384, alinéa 1er. En effet, une des questions premières qui se pose, c'est mais quelles vont être les personnes concernées par cette responsabilité générale, si jamais il y a une responsabilité générale, du fait d'autrui? À quelles conditions une personne peut être responsable du fait d'autrui? Et évidemment, ici, on est en présence d'un centre de rééducation, mais on peut tout aussi bien, et vous l'avez peut-être à l'esprit, songer à la responsabilité de la baby-sitter. Est-ce que la baby-sitter, le soir, peut être responsable du dommage qui serait causé par un jeune enfant dont elle aurait la charge pendant que les parents sont partis au cinéma. Au cinéma, je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'est le cinéma, c'était un endroit où on projetait des films à l'époque où on avait le droit de sortir et à l'époque on avait donc besoin éventuellement de babysitter. Même chose pour les grands-mères ou les grands-parents. Est-ce que les grands-parents peuvent être responsables du dommage causé par leur petit enfant dont ils ont la garde, qu'ils sont en train de promener à l'extérieur, emmener dans un centre de loisirs sans que les parents ne soient là? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y aurait une responsabilité du fait d'autrui qui pèse sur les grands-parents? Bref, première question, une même responsabilité peut-elle peser sur des non-professionnels comme la babysitter, comme la grand-mère ou le grand-père? L'arrêt nous dit aussi que l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler le mode de vie de la personne handicapée. Accepter d'organiser et de contrôler. Fallait-il voir dans cette formulation les critères de la garde d'autrui, qui consisterait donc à organiser et contrôler le mode de vie de la personne, critères de la garde d'autrui qui seraient en quelque sorte à mettre en parallèle avec les critères de la garde de la chose tels qu'ils ont été définis par l'arrêt. Par quel arrêt? Je vous écoute. Mais oui, bien sûr, par l'arrêt Franck du 2 décembre 1941. Effectivement, on pouvait se demander si la responsabilité ne peut peser que sur celui qui a la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'une personne dont elle a la charge. À titre permanent, fallait-il en déduire alors que les cas de garde temporaire ne pourraient donner lieu à l'application de l'article 1384, alinéa 1er. Et puis, dernière question, c'est une personne handicapée qui était à l'origine du dommage et la Cour de cassation souligne qu'on est en présence d'un handicapé. Peut-on penser que cette jurisprudence est alors limitée aux personnes potentiellement dangereuses, voire à celles qui créeraient un risque social à l'exclusion de toute autre personne? Et voilà pourquoi, avec la réplique, on est sorti avec pratiquement plus de questions que de réponses quant au domaine, quant aux conditions d'application de la responsabilité générale du fait d'autrui qu'il faudrait trouver dans l'article 1384, alinéa 1er, depuis cette décision. Et puis, quid également du régime de cette responsabilité. En 1991, si vous essayez de vous replacer à cette époque, il n'existe pas encore, avant cette décision de responsabilité générale du fait d'autrui, il n'existe donc que des cas particuliers. Ces cas particuliers, on les trouve à l'article 1384, je l'ai dit tout à l'heure, aux alinéas 4 et suivants. Si vous vous souvenez, qu'on a traité de la responsabilité des pères et mères, alinéa 4 et alinéa 7. On a traité de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé, alinéa 5. Or, en 1991, quand on regarde ces deux cas de responsabilité spéciale du fait d'autrui, on se rend compte que les pères et mères sont tenus d'une présomption de faute qui ne disparaîtra qu'avec l'arrêt Bertrand de 1997, mais de 1804 jusqu'en 1997, les pères et mères sont tenus d'une présomption de faute. Ils peuvent s'exonérer, ils peuvent renverser la présomption en prouvant leur absence de faute et de surveillance, tandis que les commettants sont tenus d'une responsabilité de plein droit, ce qui signifie que leur absence de faute n'est pas exonératoire. On a deux régimes différents dans les cas de responsabilité spéciale. Du coup, on se pose la question. Dans le cadre d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui, que la jurisprudence inventerait à partir de la réplique de 1991, doit-elle consacrer une responsabilité de plein droit sur le modèle du commettant, empêchant l'exonération par exemple du centre de rééducation, empêchant l'exonération par la preuve de l'absence de faute? Ou faut-il copier le modèle de la responsabilité des pères et mères du fait de leur enfant jusqu'en 1997 et considérer que celui qui est tenu pour autrui doit pouvoir s'exonérer en prouvant son absence de faute ? C'est la question du régime de la responsabilité, question qui s'était aussi posée pour la responsabilité générale du fait des choses, question qu'avait tranché à cette époque l'arrêt Gender. Au fond, l'arrêt Blick, ça n'est pas l'arrêt Gender. L'arrêt Blick ne tranche pas le régime de responsabilité du fait d'autrui qui est consacré sur le fondement de l'alinéa premier. Il laisse la question ouverte et il laisse les commentateurs dans l'attente des décisions à venir de la Cour de cassation. Ce qui nous conduit tout droit au paragraphe 2, le régime de la responsabilité générale du fait d'autrui. Première question de ce paragraphe 2, que je viens déjà d'évoquer, le domaine de la responsabilité générale du fait d'autrui, c'est-à-dire l'application de l'alinéa premier de l'article 1384 à l'époque devenu 1242, que recouvre cet alinéa premier s'agissant des personnes responsables pour autrui sur le fondement de cet alinéa. Il y a une première remarque à faire qui est presque d'évidence puisqu'elle est issue immédiatement de la réplique, c'est que un premier grand domaine vise les associations et les centres chargés de rééduquer des personnes. J'ai dit des handicapés mentaux, j'ai dit des mineurs, j'ai dit la réinsertion de délinquants. L'idée, c'est sans doute qu'on est ici en présence de personnes dangereuses. Ce n'est pas le critère souligné par la Cour de cassation. Elle exclut et elle évite, heureusement d'ailleurs, de parler de personnes dangereuses, mais c'est bien l'idée de dangerosité qui justifie ici la responsabilité d'établissements qui ont la garde de personnes qui ont vocation éventuellement à commettre un certain nombre de dommages. La garde qui est ici prise en compte est une garde juridique qui puise sa source dans une décision judiciaire ou encore dans une disposition légale ayant conduit à ce que l'enfant ou la personne handicapée ou le délinquant en réinsertion ait été confié à un organisme privé. La jurisprudence a alors cantonné la portée de la responsabilité en dehors de ces hypothèses de transfert juridique de la garde. Par exemple, une mesure d'action éducative en milieu ouvert, sans pouvoir effectif de direction et de surveillance, ne conduit pas à une responsabilité du fait d'autrui. C'est une solution issue d'un arrêt de la deuxième chambre civile du 19 juin 2008. Par exemple encore, la responsabilité de la grand-mère ne peut pas être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er. Et puis plus encore, lorsque le transfert de garde ne résulte pas d'une décision de justice ou d'une disposition légale, mais qu'il résulte d'un contrat conclu avec les parents, la responsabilité délictuelle, et donc l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, la responsabilité délictuelle est inapplicable. Seul le fondement contractuel pourra être envisagé. Une deuxième série de décisions, et par conséquent un deuxième grand domaine de la responsabilité du fait d'autrui sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, concerne la responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres. Par deux arrêts du 22 mai 1995, la deuxième chambre civile a en effet admis le recours à l'article 1384 alinéa 1er pour engager la responsabilité d'une association dans une telle hypothèse. Et ces arrêts marquent une extension finalement du domaine initialement ouvert, reconnu par l'arrêt Blick, on est dans des hypothèses bien différentes. Dans les deux cas des deux arrêts du 22 mai 1995 que je viens d'évoquer, on est en présence de bagarres qui sont survenues au cours d'un match de rugby, d'une violence telle que l'un des joueurs en était même décédé. Et la Cour de cassation a posé un attendu de principe très important qui affirme, je le cite, c'est attendu, « Les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion. Je vais répéter cet attendu de principe. Les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion. Et c'est évidemment une extension importante du domaine de la responsabilité générale du fait d'autrui, parce que, d'une part ici, si l'on envisage l'auteur même du dommage, en l'espèce le joueur de rugby, le danger ne se trouve pas dans la personne qui a causé le dommage, on n'est pas en présence d'un mineur, d'un délinquant, d'une personne handicapée mentale. On est ici en présence d'un sportif en pleine possession de toutes ses capacités. Le danger n'est donc pas dans la personne elle-même, le danger est dans la nature de l'activité à laquelle cette personne se livre, qui est une activité dangereuse parce qu'éventuellement violente. Et puis du côté du responsable du fait d'autrui, le pouvoir, c'est-à-dire en l'espèce le club, responsable pour les joueurs de rugby, le pouvoir qu'exerce le club sur ses membres n'est plus un pouvoir permanent, mais un pouvoir intermittent. Or, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que dans la réplique, on dit que l'association avait accepté à titre permanent. Ici, on est en présence d'un club sportif qui exerce sans doute un pouvoir sur ses membres, mais sans doute un pouvoir à titre uniquement intermittent et évidemment pas un pouvoir permanent sur ses membres. Voilà donc pourquoi on est en présence d'un deuxième grand volet d'hypothèses de responsabilité du fait d'autrui, très différent, ce deuxième volet, du cas des associations et des centres chargés de rééduquer un certain nombre de personnes dangereuses. Ce deuxième volet s'est accru progressivement parce que la Cour de cassation l'a élargi à des hypothèses un petit peu voisines, notamment lorsque l'accident survient au cours d'un entraînement et non plus d'un match, et même dans l'hypothèse où l'accident survient après la compétition sportive elle-même. Elle l'a même appliqué au-delà des rugbyman à une association de majorettes. C'est un arrêt de la deuxième chambre civile, du 12 décembre 2002. Alors j'en vois qui se demandent comment il est possible que des majorettes causent un dommage par opposition aux rugbyman qui pratiquent une activité sportive dangereuse. L'activité des majorettes ne serait pas dangereuse si l'activité des majorettes est dangereuse, puisque dans l'arrêt du 12 décembre 2002, numéro de pourvoi 00-13553, il y a une jeune femme qui a été blessée par le bâton manipulé maladroitement par une autre majorette, et c'est cette blessure qui a occasionné l'action en responsabilité contre l'association Saint-Louis de Poissy qui organisait le défilé des majorettes en question. On voit ici que la nature dangereuse de l'activité n'est plus du tout une condition d'application de ce régime. Cette responsabilité s'explique, dit la Cour de cassation, par le fait que l'association avait pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours du défilé. Au cours du défilé, on est à nouveau dans une activité temporaire et très différente de l'hypothèse dans laquelle il y a la responsabilité des associations et des centres chargés de rééduquer des personnes. On a donc deux grandes hypothèses de responsabilité du fait d'autrui qui recouvrent le domaine de l'article 1384 alinéa 1er s'agissant de cette responsabilité générale du fait d'autrui. La deuxième question qui se pose, c'est le grand B, c'est la nature de la responsabilité du fait d'autrui. Si je pose cette question, je vous en rappelle la problématique, c'est parce qu'on se demande si on va être en présence d'une responsabilité de plein droit, auquel cas l'association ou la personne tenue pour autrui ne pourra pas s'exonérer en prouvant son absence de faute, ou bien si on sera en présence d'une présomption de faute qui permettrait alors à celui qui est tenu pour autrui de s'exonérer, de renverser la présomption en prouvant qu'il n'a pas commis de faute. La Cour de cassation a tranché pour une responsabilité de plein droit. Elle a considéré que le régime de responsabilité devait être calqué sur celui du commettant du fait du préposé et non pas sur celui des pères et mères du fait de leur enfant. Elle a donc considéré que l'absence de faute n'était pas exonératoire pour celui qui est tenu pour autrui. Cette solution rendue en 1997 a conduit la Cour de cassation à modifier dans l'arrêt Bertrand le régime de responsabilité des pères et mères du fait de leur enfant. La Cour de cassation a fait le raisonnement suivant. À partir du moment où elle consacre un principe général de responsabilité sur le fondement de l'alinéa premier, dans lequel elle voit une responsabilité de plein droit, signifiant qu'il n'est pas possible de s'exonérer par la démonstration d'une absence de faute, elle a considéré qu'elle ne pouvait pas maintenir une hypothèse spéciale à l'alinéa 4 et à l'alinéa 7 de responsabilité du fait d'autrui pour les pères et mères du fait de leur enfant, qui reposerait sur une présomption de faute. Elle a donc considéré qu'il fallait aligner, en quelque sorte, l'ensemble du régime de responsabilité du fait d'autrui, qu'il s'agisse des cas spéciaux de responsabilité ou du cas général de responsabilité. Et voilà pourquoi l'arrêt Bertrand de 1997 a statué en faveur d'une responsabilité de plein droit des pères et mères tenus du fait de leur enfant mineur, de sorte que désormais, que l'on soit en présence d'une hypothèse particulière de responsabilité du fait d'autrui ou que l'on soit en présence du principe général de responsabilité du fait d'autrui sur le fondement de l'alinéa premier, il s'agira toujours d'une responsabilité de plein droit. Les arrêts qui consacrent ce régime de responsabilité pour l'alinéa premier ont été rendus le 26 mars 1997 par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Je cite les arrêts. Les personnes tenues de répondre du fait d'autrui au sens de l'article 1384 alinéa premier ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute. Ce sont donc ces trois arrêts de la chambre criminelle du 26 mars 1997 qui ont tranché la question de la nature de la responsabilité générale du fait d'autrui sur le fondement de l'alinéa premier. Vous aurez peut-être observé que ces arrêts sont de mars 1997, tandis que l'arrêt Bertrand, qui va modifier la nature de la responsabilité des pères et mères, est de février 1997, un mois plus tôt. Et peut-être que certains d'entre vous sont en train de se dire comment est-il possible que la Cour de cassation ait modifié la nature de la responsabilité des pères et mères pour aligner cette responsabilité sur celle générale du fait d'autrui de l'alinéa premier, alors qu'elle modifie les pères et mères en février et que la nature de la responsabilité qui pèse sur les associations ou les centres chargés de rééduquer des personnes ou les associations sportives, on ne la connaîtra qu'en mars 1997. Comment pouvez-vous nous faire croire que la Cour de cassation va finalement s'inspirer en février d'un arrêt rendu en mars ? Eh bien, la réponse est pourtant oui, c'est possible. C'est possible. En fait, dans l'arrêt Bertrand, la Cour de cassation anticipe les arrêts de mars, elle sait qu'elle va rendre les arrêts de mars, évidemment qu'elle le sait, Et par conséquent, elle décide que pour les pères et mères, il s'agira d'une responsabilité de plein droit parce que sur l'alinéa premier, il s'agira également d'une responsabilité de plein droit. C'est un peu étrange de considérer qu'elle anticipe, mais il n'y a rien d'impossible, non seulement pour la Cour de cassation, mais il n'y a rien d'impossible à partir du moment où elle a décidé que tous les cas de responsabilité du fait d'autrui, généraux ou spéciaux, devront correspondre à une responsabilité de plein droit. Cette responsabilité de plein droit, au fond, elle est cohérente. Elle est cohérente parce que le fondement, c'est le risque, et ça n'est pas la faute. Et donc, il n'y a aucune raison qu'on puisse admettre une exonération pour absence de faute. Et puis, elle est cohérente aussi avec la responsabilité du fait des choses, qui est aussi une responsabilité de plein droit. Et il est heureux que dans l'alinéa premier, découvert, consacré et enrichi par la jurisprudence, on est dans les deux hypothèses, fait des choses ou fait d'autrui, une responsabilité de plein droit. Et puis, elle est désormais cohérente avec les autres régimes de responsabilité du fait d'autrui, arrêt Bertrand et responsabilité des pères et mères, du fait de leur enfant mineur, et puis alinéa 5, responsabilité du commettant, du fait des préposés. On a donc une responsabilité de plein droit, aussi bien pour la responsabilité générale du fait d'autrui que pour les cas spéciaux de responsabilité du fait d'autrui. Est-ce que tout va bien ? Oui ? C'est pas trop compliqué ? Peut-être que vous pourrez tranquillement réécouter, vous reposer des questions, regarder les arrêts en même temps que vous réécouterez des extraits de ce cours. Il y a une question que j'ai laissée en suspens, à laquelle peut-être certains d'entre vous ont songé pendant que je parlais. Je viens de parler de la nature de la responsabilité qui pèse sur celui qui est tenu pour autrui, mais je n'ai pas parlé de l'acte qui a été commis à l'origine par l'auteur du dommage et qui va engendrer cette responsabilité du fait d'autrui. Je n'ai pas parlé de l'acte du rugbyman. Je n'ai pas parlé de l'acte du mineur ou de la personne handicapée mentale sous surveillance. Je n'ai pas parlé de l'acte de la majorette. Quel est l'acte de nature à engager la responsabilité du fait d'autrui sur le fondement de l'alinéa premier ? Je sais que c'est une question que je pose à chaque fois et qui perturbe un peu. Mais il faut bien se la poser puisque, précisément, elle est source de difficultés en jurisprudence. Vous vous souvenez que, au fond, il y a deux séries d'actes qui peuvent engager la responsabilité du fait d'autrui. L'acte dommageable peut résulter soit du fait personnel, soit de la garde de la chose. Vous vous souvenez que l'enfant peut être gardien. Vous vous souvenez que le préposé ne peut pas être gardien. C'est le commettant qui l'est pour lui, qui l'est directement. Vous vous souvenez aussi que dans la responsabilité des parents, du fait de leur enfant mineur, on n'exige même pas que l'enfant à l'origine du dommage ait causé une faute. On se satisfait d'un simple acte dommageable de la part de l'enfant. Je me demande d'ailleurs si vous voyez ce que peut viser un acte dommageable qui ne serait pas une faute. Je me souviens que la question m'avait été posée à la fin d'un cours et j'avais trouvé cette question évidemment ingénieuse. J'avais enseigné que Füllenwart, le verre principalement, conduisait à la consécration d'une responsabilité des pères et mères, non pas pour la faute ayant causé le dommage de l'enfant, mais pour le simple acte dommageable de l'enfant. Et l'étudiant était venu me voir et il m'avait dit « Mais monsieur, c'est quoi un acte dommageable qui n'est pas une faute ? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple ?» J'avais dit « L'exemple, c'est celui de l'arrêt Levert. Dans l'arrêt Levert, précisément, on est en présence de deux mineurs qui jouent au rugby, encore une fois au rugby. Ce sont des élèves pendant la récréation. Et il y a un élève qui plaque un autre et lui met un coup au visage au cours de la partie de rugby. Et il lui met un coup au visage totalement involontairement. Il n'a pas du tout violé les règles du jeu. Il l'a plaqué normalement. Et simplement, dit la Cour de cassation, il s'agit d'un malencontreux plaquage qui entraîne la blessure du camarade avec lequel il jouait. Or, dit la Cour de cassation, il n'y a pas ici de faute de l'enfant. Il l'a plaqué conformément aux règles du jeu. Il n'y a pas de faute de l'enfant. Il y a un acte dommageable de l'enfant puisque ce plaquage a causé un dommage. Et la Cour de cassation nous dit acte dommageable, l'acte dommageable est suffisant pour engager la responsabilité des pères et mères. Autrement dit, alors même que l'enfant n'a pas commis de faute, alors même qu'il n'est pas tenu sur le terrain de la responsabilité du fait personnel puisqu'il n'a pas commis de faute, les pères et mères sont tenus. Alors je me dis, est-ce que cette question ne doit pas aussi se poser pour la responsabilité générale du fait d'autrui? Quel est l'acte que la personne doit avoir commis qui est à l'origine d'un dommage et qui va engager la responsabilité d'autrui, une association, un centre, etc., etc. Réponse de la Cour de cassation, il faut une faute. La Cour de cassation ne se cale pas sur l'arrêt Levert. Elle n'admet pas qu'un simple acte dommageable puisse engager la responsabilité du fait d'autrui. Elle dit il faut une faute. Et par conséquent, à la question de savoir que doit avoir fait l'auteur du dommage pour que s'engage la responsabilité du fait d'autrui sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 1242, eh bien, il doit avoir soit commis une faute qui entraîne un dommage, soit avoir été le gardien d'une chose qui cause un dommage. La faute, comme le fait de la chose, sont toutes deux à l'origine de la responsabilité du fait d'autrui dans le cadre de l'alinéa 1er de l'article 1384. Je résume donc tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. La Cour de cassation a consacré une responsabilité générale du fait d'autrui sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 1384 sur le modèle de ce qu'elle avait fait un siècle plus tôt concernant la responsabilité du fait des choses. Première remarque. Elle l'a fait également à partir de ce petit membre de phrase de l'alinéa 1er qui n'était qu'une simple transition dans le Code civil entre les articles précédents, responsabilité du fait personnel, et les articles suivants, responsabilité spéciale du fait des choses et responsabilité spéciale du fait d'autrui. Elle l'a fait à partir d'un arrêt Blic de 1991, non sans avoir réfléchi à la question depuis l'arrêt Gendeur de 1930, puisque le procureur général de l'époque avait déjà envisagé l'hypothèse dans sa réflexion sur l'arrêt Gendeur. Elle l'a fait en raison des nécessités sociales et précisément du fait que les modes d'éducation d'un certain nombre de personnes placées dans des centres de rééducation justifiaient une responsabilité du fait d'autrui. Elle l'a fait dans ce fameux arrêt Blic, qui toutefois soulève un certain nombre de questions auxquelles il n'apporte pas de réponse, notamment deux séries de questions fondamentales. Quel est le domaine de cette responsabilité dégagée sur le fondement de l'alinéa 1er, c'est-à-dire qui sont les personnes qui peuvent ainsi être responsables du fait d'autrui? Et deuxième série de questions, quelle est la nature de la responsabilité ainsi dégagée sur le fondement de l'alinéa 1er, responsabilité de plein droit ou présomption de faute? C'est la jurisprudence ultérieure qui va répondre à ces deux séries de questions. S'agissant du domaine, avec les deux grands domaines que j'ai évoqués tout à l'heure, qui nous conduisent à stigmatiser, viser, englober les associations et centres chargés de rééduquer un certain nombre de personnes, et de l'autre côté, les associations sportives qui organisent des matchs, des entraînements, des compétitions sportives. Et puis, s'agissant de la deuxième question, celle du régime, de la responsabilité, on a vu qu'il faudra attendre 1997 pour savoir qu'on est en présence d'une responsabilité de plein droit, d'une responsabilité qui n'est pas fondée sur la faute. Et c'est ce régime de responsabilité qui va conduire la Cour de cassation à modifier la responsabilité des pères et mères pour l'harmoniser, pour la mettre au même régime que cette responsabilité générale du fait d'autrui, en considérant désormais que les pères et mères ne peuvent pas s'exonérer en prouvant leur absence de faute. Voilà exactement tout ce que vous devez savoir sur la responsabilité générale du fait d'autrui sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 1384 devenu 1242. Qu'est-ce que vous avez été sérieux quand même, parce que ça fait 45 minutes que je parle et vous avez pris des notes, écouté, vous vous êtes posé des questions pertinentes. Bien sûr, j'en ai vu quelques-uns qui regardaient leur portable, mais finalement assez peu, très peu qui ont envoyé des SMS, et vous êtes toujours extrêmement attentif, et c'est toujours, même à distance, un vrai plaisir de faire court. Je sais que finalement, la chanson que j'ai mise à la fin du premier podcast n'a peut-être pas déplu à tous, et du coup, j'ai envie, puisqu'il nous reste un peu de temps, de vous passer une nouvelle chanson. Cette chanson s'appelle Panorama, c'est un titre issu du dernier album de Vincent Delerme, un titre qui est d'ailleurs aussi celui de l'album, et qui se réfère à un film documentaire de Vincent Delerme qui s'intitule « Je ne sais pas si c'est tout le monde » qu'il a réalisé l'année dernière. Ce panorama que vous allez entendre, c'est au fond un journal intime, des confidences, qui est rythmé de témoignages de diverses personnes, dont celui d'Alain Souchon. Et à la fin de Panorama, vous allez également entendre le réalisateur François Truffaut expliquer la différence entre la vie et le cinéma et les liens entre la vie et le cinéma. La vie, c'est quoi une vie ? Qu'est-ce qu'on a fait de sa vie ? Qu'est-ce qu'on a fait dans sa vie ? S'interroge l'un des personnages que vous allez pouvoir entendre. Je vous laisse trouver votre réponse. Qu'est-ce qu'on a fait dans sa vie ? Qu'est-ce qu'on veut faire dans sa vie ? J'ai déjà beaucoup de mal à trouver la mienne, même si je commence à avoir des idées un peu sérieuses. Allez, à très vite avec grand plaisir.
Je m'endors dans une ville nouvelle. L'esplanade, les après-midi.
Et au fait, quand je repense à mon enfance, c'est comme si ça avait duré une seule soirée d'été.
La résidence et puis...
infini.
Le ciel.
Très longue. Quand ça traîne, et que ça convient à tout le monde que ça traîne comme ça.
Les films sont des trains. Dans la nuit. Je relis dans un agenda.
Moi, je me souviens très bien des sensations, des couleurs, des gens, enfin, mais pas des dates.
18 juillet, Angoulême, pluie.
Ben, au bout de 40 ans, t'as 40 carnets et donc t'as 40 ans de vie.
Nul ne peut savoir.
J'ai dû commencer ça donc en.
À part moi.
En 78, donc tu vois, ça fait 40 ans presque, c'est ça. Ça donne quand même ben, le panorama d'une vie.
Les films sont des trains dans la nuit.
Enfin, c'est quoi une vie ? Qu'est-ce qu'on a fait dans sa vie ?
J'aime le bitume et j'aime les tours.
Je sais pas, avec le recul, j'aurais voulu faire un truc un peu plus stylé.
La MJC.
Je me suis retrouvée à la MJC de ma ville.
Le mercredi.
Le hip-hop, en fait, ça reste une danse que tu peux apprendre où tu commences tout seul ou tu viens ici t'entraîner avec des amis.
Je n'ai pas d'avis sur l'amour.
Moi, je pleure.
Jeune fille me parle tout bas.
On avait un petit appartement et mes parents sortaient tous les soirs.
Amoureux,
je garde un souvenir.
Aussi.
Tous les soirs, je me retrouvais avec Marie-Louise ou Jeannine. Je...
alors, je choisis cette vie-là.
Je leur posais des questions, ne sachant pas exactement qui était mon père et tout ça.
Les filles sont des trains.
Chanter des chansons que je ne connaissais pas, mes parents n'écoutaient que de la musique classique.
Donc elle me chantait des chansons de Tino Rossi ou de... que je trouvais jolies.
Quelque chose, un jour, s'est passé.
J'ai perdu mes parents assez jeunes.
J'ai tellement pleuré.
Et je crois...
Et depuis...
Je crois qu'en fait, du coup, dans ma vie, j'ai régulièrement cherché à me créer une famille.
J'entends leurs pas dans l'escalier.
Elle est boiteuse pour tout le monde.